France Inter. Nicolas Demorand.
La revue, oui, la revue de presse, Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On parle, Claude, de Carlos Ghosn dans les journaux ce matin.
Carlos Ghosn qui va bientôt être libéré sous caution. Et c'est donc le bon moment pour contempler le champ de ruines qu'il laisse et que nos journaux éclairent. Renault-Nissan, 4 semaines en enfer. Le titre barre la une des échos, mais il ne s'agit pas ici d'investigation. Il s'agit de sociologie passionnante sur nous. C'est la crise Ghosn vue de chez Renault, vue du point de vue de nos élites outré. Car le 19 novembre dernier, ce jour où Carlos Ghosn et son lieutenant Greg Kelly furent arrêtés, quand des proches de Ghosn, dans la panique, prenaient l'avion pour fuir le Japon, à peine avaient-ils débarqué à Tokyo. La ministre française Agnès Pannier-Runacher prenait le petit déjeuner avec Hiroto Saikawa, directeur général de Nissan, qui se préparait à poignarder Ghosn et qui ne lui dit rien. Et à lire les échos, notre pays et notre firme Renault se vivent victimes d'une rébellion, d'une traîtrise japonaise. Comme le dit un grand patron, Renault s'est pris un Pearl Harbor, cette agression des Japonais contre les Américains en 1941. Oui, mais cette rhétorique guerrière ne dit pas grand-chose de la vérité, et les échos reconnaissent après d'autres qu'une société néerlandaise, Renault-Nissan BV, fut envisagée en 2010 pour dissimuler à la curiosité des autorités financières japonaises une partie des rémunérations de Carlos Ghosn. Il s'agissait d'échapper à une nouvelle loi qui imposait une nouvelle transparence, et Carlos Ghosn considérait que cette nouvelle transparence pouvait poser problème en termes de relations publiques. Oui, relations publiques. Et cela, je le lis dans le meilleur article publié sur cette affaire à ce jour, sans aucun effet de style, mais aux informations de scalpel. Il est long, oui, mais il faut savoir prendre son temps pour ne pas subir l'actualité. Et allez donc sur le site de l'Opinion pour lire cette enquête du journal partenaire Wall Street Journal, qui nous dit ce qui est vraiment arrivé chez Nissan, une vieille entreprise qui se voulait frugale et transparente et qui a eu peur d'être avalée dans une fusion avec Renault et qui surtout ne supportait plus de financer, je cite, la vie de jet-setter de son grand patron. Et je lis dans l'Opinion, les 550 mètres carrés d'appartement à Paris, payés par Nissan, l'appartement à Copacabana, idem, et cette maison rose à Beyrouth avec ses sarcophages en sous-sol et cette cave à vin. Et on lit aussi dans l'Opinion, cette société théoriquement dévolue au capital risque ZIA qui achetait en réalité les résidences du patron. On découvre surtout, dans le Wall Street Journal et l'Opinion, ces modestes obscurs employés de Nissan, Hidetoshi Imazu, Arinada, qui ont enquêté sur le patron et les sociétés écrans qui soutenaient son existence avant d'aller voir M. Saikawa à la fin de l'été et la justice. Et oui, il y eut bien complot, mais pas sans raison, il y eut des ruses. Et le pauvre Greg Kelly, qui était en semi-retraite en Floride, fut convaincu de venir à Tokyo pour un conseil d'administration. En réalité, il avait rendez-vous avec la police. Carlos Ghosn va sortir de prison. Vous saurez maintenant, par l'Opinion, comment il y est entré.
Et on parle des dessous de la Défense, le quartier de la Défense dans La Croix.
Et c'est un autre long sujet, La Croix excelle dans le grand reportage au coin de chez nous, en dessous de chez nous. Nous parlons ici d'une survie qui se dissimule sous le quartier d'affaires de la Défense, dans les recoins de béton des parkings, un gruyère de constructions et de dents creuses où vivent des dizaines de SDF. Et voilà donc dans La Croix Adrien, 33 ans, venu de Pologne, qui s'est organisé un squat dans un local désaffecté avec un copain ukrainien. Ils ont des meubles récupérés sur des trottoirs, ils ont même un chaton. Voilà Virginie qui fait des ménages et qui dort dans une cage d'escalier et qui prend soin dans la journée de ne pas laisser deviner la dureté de ses nuits. Voilà Sébastien dans son sac de couchage à l'entrée d'un centre commercial. Voilà sous la Défense un jardin potager, des bénévoles, une solidarité. Voilà des vigiles qui ferment les yeux sur les squatteurs de parking, sauf s'ils cassent ou squattent des gaines de ventilation ou menacent par leurs bidouillages électriques de faire brûler les sous-sols. Et en haut, les tours, les patrons, la puissance. C'est les autres, là, qui sont les esclaves. Ils travaillent pour nous nourrir. En fait, nous sommes les graciers. Lance un SDF, un géant guadeloupéen en treillis de camouflage, qui mange des crêpes au petit déjeuner de solidarité de l'église Notre-Dame de Pentecôte, au milieu des tours. Et tout ce monde est magnifiquement illustré dans La Croix par un artiste nommé Titoine, car dans le vrai grand reportage, le dessin compte aussi pour regarder ces invisibles que La Croix a vus.
Des dessins aussi dans l'Obs.
Qui, comme d'autres hebdomadaires, est cette semaine en numéro double, qui va couvrir et Noël et le jour de l'an. Et l'Obs ramène des artistes, tel Riyad Satouf, pour illustrer l'amour, car il s'agit de cela. 25 histoire d'amour pour passer les fêtes qui toutes sont écrites en hommage à Aragon et au début d'Aurélien. La première fois qu'Aurélien vu Bérénice, la première fois, il en faut de l'amour et dans l'Obs, ce n'est jamais mièvre. Il en faut de l'amour. L'amour que l'équipe et le Parisien témoignent à Kylian Mbappé pour ses 20 ans. Jolie photo avec Thierry Henry et avec Zidane quand il était petit. L'amour que Le Pays, hebdomadaire de Roanne, offre à Élie Brousse, qui lui a 97 ans et fut héros du rugby à 13 et qu'on surnomma le Tigre de Sydney pour un essai de légende jadis en Australie. Et sa belle gueule à Élie Brousse, pardon, rend un peu légère la frimousse de Kylian. Il vieillira. De l'amour aussi, dans notre actualité sociale et par surprise. Et je parle ici des gilets jaunes qui ont désorganisé le pouvoir. Libération, Le Figaro en témoigne. Ces gilets jaunes qui devraient se méfier des cahiers de doléances qu'on leur fait remplir. Car en 2005, les banlieues insurgées partirent aussi au cœur de la France faire remplir des cahiers de doléances qui furent aussitôt oubliés. C'est une histoire que se remémore le site internet de France Inter. Et oui, nous écrivons aussi au service public de la radio. Et plus que ça encore, écoutez ceci. Ça, c'est la sono des gilets jaunes qui diffuse la foule de piaf et la voix de la môme s'élève par-dessus le crépitement des palettes de bois qui brûlent. Ça, c'est un reportage qu'a filmé Richard Vivion de France Bleu Pays de Savoie au barrage de Margencelles qui était évacué par les forces de l'ordre. La Voix du Nord a repéré cette vidéo diffusée sur Twitter. On y voit dans un long plan séquence des gilets jaunes qui dansent seuls comme dans un rêve ou parfois enlacés sous le regard presque tendre des gendarmes. On pense aux usines occupées en 36 où on ne pense rien, on regarde. C'est le plus beau des reportages sur ces barrages où l'on a vécu. Et si cette poésie n'est pas toute la vérité d'un mouvement complexe, on reverra dans 20 ans les images de Richard Vivion, de cette maison, de France Bleu, de Radio France. On reverra ces images en Paris, quand on cherchera la vérité d'un automne.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.